Très bien. Eh bien, nous allons donc maintenant passer à la partie scientifique de notre après-midi avec la communication de Madame Jenny Raflick. Alors, Madame Jenny Raflick est historienne, elle est professeure d'histoire des relations internationales contemporaines à l'Université de Nantes, après avoir enseigné, je crois, à Cergy Pontoise, si je ne me trompe. Elle s'occupe avant tout des questions de sécurité et de défense. Elle est d'ailleurs attachée à l'Institut des hautes études de défense nationale, n'est-ce pas ? Enfin, je ne sais pas si j'en restitue le nom avec exactitude. Alors, vous êtes également, Madame Raflick, chargée de mission auprès du GIP. Je ne sais pas ce que c'est qu'un GIP. Groupement, voilà, à savoir celui du Musée Mémorial du Terrorisme. Alors, vous avez publié plusieurs ouvrages. Je vais les prendre dans l'ordre chronologique, puisque vous allez voir pourquoi. D'abord, La Quatrième République et l'Alliance Atlantique, publié aux presses de l'Université de Rennes en 2013. Ensuite, un travail de synthèse historique sur la Quatrième République, avec comme titre « Une République moderne, la Quatrième République », publié au Seuil en 2018. Et enfin, l'ouvrage qui m'a donné l'idée de vous inviter à vous prononcer devant nous, cet ouvrage qui s'appelle « Terrorisme et mondialisation, approches historiques ». Je ne sais plus, mais ma mémoire peut tout à fait me jouer des tours, si l'ouvrage a été déposé officiellement sur le bureau de l'Académie. Il me semble que non, mais enfin, je peux tout à fait me tromper. Alors, je ne peux pas le déposer officiellement aujourd'hui, mais enfin, je peux au moins vous montrer qu'il existe et qu'il vaut la peine d'être lu, puisque c'est vraiment un essai d'histoire globale, bon, puisque vous y prenez en vue le phénomène terroriste des origines à nos jours et d'un coin à l'autre, à supposer que la planète ait des coins, d'un endroit à l'autre de la planète. Vous avez également écrit une bonne demi-douzaine d'articles, vous n'en donnez qu'une sélection, sur le phénomène qui nous intéresse malheureusement, si je puis dire, aujourd'hui, donc le terrorisme. Et alors, si j'ai pensé à vous interroger j'ai pensé à puiser dans votre compétence sur le problème du terrorisme dans une année consacrée à la notion de sauvetage ou de salut ou de sauvegarde, ou comme on voudra dire, il faut garder à la mémoire le caractère chatoyant de ces notions, eh bien, c'est parce que école, si je puis dire, si c'est une école, en tout cas un groupe de terroristes met en question, de façon tout à fait pratique, une des bases essentielles de notre pensée politique, à savoir celle que nous supposons connue depuis Thomas Hobbes, que le premier souci que nous avons, le premier mal que nous avons à éviter, c'est la mort violente. Et il y a des gens qui, à savoir les terroristes, qui ne cherchent pas avant tout à sauver leur peau, mais d'une certaine manière à sauver leur âme, au risque d'une mort violente, non seulement pour eux, ce qui est le propre des martyrs chrétiens et juifs, mais aussi en tuant d'autres. Donc, c'est le problème que je vous avais soumis et je serais très heureux d'écouter vos réflexions sur le sujet. Donc, votre titre, c'est « Nous aimons », une citation, hein, « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie ».
Alors, Nous aimons la mort comme vous aimez la vie, cette phrase est en partie tirée d'une interview de Ben Laden donnée en 1997, une interview donnée à CNN, où Ben Laden déclarait « Mourir sur la voie de Dieu est un honneur souhaité par ceux de ma communauté qui luttent. Nous aimons la mort sur la voie de Dieu autant que vous aimez la vie. Nous ne craignons rien. Nous espérons une telle mort. » Interview, il faut le préciser, dont les questions avaient été données à l'avance à Ben Laden et les réponses donc travaillées et rédigées auparavant. Alors, cette phrase « Nous aimons la mort comme vous aimez la vie », on la retrouve dans la rhétorique djihadiste actuelle assez fréquemment. On la retrouve dans la bouche de Mohamed Merah à Toulouse en 2012. On la trouve dans la bouche d'un certain nombre de ce que l'on appelle aujourd'hui les revenants de retour de zone. Cette phrase, évidemment, a des racines plus anciennes, qui renvoient aussi à une citation du général d'Abou Bakr, le second calife, pendant les guerres dites de l'apostasie. Mais je ne vais pas remonter aussi loin, parce qu'en réalité, et c'est un des objets de mon exposé, les djihadistes qui l'utilisent se réfèrent à Ben Laden, et j'y reviendrai, ils ont en réalité peu de culture religieuse, et en général n'ont pas des références de ce type. Alors, cette mort sur la voie de Dieu, puisque c'est ainsi que Ben Laden la baptise, fait écho à ce qui est devenu un mode opératoire privilégié du terrorisme islamiste contemporain, à savoir l'attentat suicide. Et devenant un élément clé de cette rhétorique terroriste actuelle, cette phrase a contribué à établir dans nos esprits un lien entre terrorisme, attentat suicide et religion. L'acte terroriste serait commis au nom de Dieu, pour plaire à Dieu, ouvrir aux martyrs et à une forme de salut. Alors, première question, peut-on réduire l'attentat suicide à cette dimension religieuse ? C'est sans doute pas aussi simple. Parce qu'avant les islamistes, d'autres groupes ont commis des attentats suicides. Et je voudrais commencer par deux exemples. Le premier, c'est l'organisation des Tigres Tamouls du Sri Lanka. C'est l'organisation qui a commis sans doute le plus d'attentats suicides dans son histoire. Ce sont eux qui ont inventé la ceinture explosive, à proprement parler. Sauf que les tigres tamouls, pour différentes raisons, et notamment pour ce qui est de la nature même des tamouls, sont plutôt d'obédience marxiste et que les références religieuses sont absentes. Là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Le deuxième exemple qui vient souvent à l'esprit, évidemment, c'est celui des kamikazes japonais. Alors, notons d'ailleurs que les médias utilisent régulièrement le mot kamikaze pour désigner les auteurs d'attentats suicides et qualifier les attentats islamistes. Alors, si on pense aux kamikazes de la Seconde Guerre mondiale, qui ne sont pas des terroristes au sens propre du terme, effectivement, on a un rapport religieux qui est présent, puisque dans la culture japonaise, l'idée de kamikaze évoque ces vents divins venus au secours d'une armée lors d'une bataille au XIIIe siècle. Mais en général, ce n'est pas de cet élément que part la comparaison avec le terrorisme contemporain. Le lien qui est le plus souvent évoqué, c'est le mitraillage dans le hall de l'aéroport de Lod, le 30 mai 1972. Ce jour-là, trois Japonais qui agissent pour le compte du Front populaire de libération de la Palestine et qui se revendiquent de l'armée rouge japonaise, donc rien de religieux dans tous ces groupes, ouvrent le feu sur les passagers d'un vol d'Air France en provenance de Paris. Ils tuent 26 personnes, en blessent 72. Pourquoi parle-t-on d'attentat suicide pour Lod ? Cette interprétation découle de l'attitude du seul terroriste survivant. Arrêté, il demande la peine de mort pour, dit-il, achever son sacrifice, comme les deux autres membres du commando sont morts dans la fusillade avec les forces de police. Alors, est-ce que c'était vraiment un attentat suicide ? Alors, il y a beaucoup de débats autour de cette question. De fait, les terroristes savaient qu'ils avaient à peu près aucune chance de sortir de l'aéroport vivant, en tout cas vivant et libre. Dans la décennie 1970, en Europe, il est assez fréquent qu'un groupe terroriste organise des prises d'otages pour faire pression et obtenir la libération d'autres terroristes capturés dans ce genre de circonstances. Il faut être réaliste, Israël ne négocie pas à l'époque, ils ont très peu de chance, ils le savent, au moment où ils se lancent dans cet attentat, ils ont peu de chance de s'en sortir. Donc, attentat suicide ou finalement mission suicide, c'est déjà pas exactement la même chose. Mais sans doute du fait de la nationalité des terroristes qui inscrit cet attentat dans l'héritage et dans l'imaginaire des guerriers kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale, l'expression va tout de suite être utilisée. Et surtout, c'est dans la filiation et dans les débats qui suivent qu'on va trouver une base de réflexion intéressante. Puisque l'attentat de Lod va susciter un débat sur la notion de sacrifice et la notion de fédaïne. Dès le lendemain, le dirigeant libyen, Muammar Kadhafi, encourage les Palestiniens à suivre l'exemple japonais. Et il va les inciter à commettre des attentats suicides. Deuxième élément de réflexion, c'est dans les liens que les Japonais vont avoir avec ceux qui sont devenus ensuite les terroristes islamistes contemporains. Le passage des membres de l'armée rouge japonaise dans les camps d'entraînement du Liban a été, d'après beaucoup d'historiens, un élément déterminant pour convaincre du caractère efficace, opérationnel, tactique de ce type d'attentat-suicide. L'hypothèse est assez plausible, d'autant plus que les Japonais ne sont pas les seuls à œuvrer de la sorte. Notamment dans les camps d'entraînement du Hezbollah, on va trouver aussi des instructeurs issus des Tigres Tamouls sri-lankais. Et finalement, on voit dans ces années 70, dans ce syncrétisme à l'échelle internationale qui favorise les opérations entre groupes terroristes d'extrême gauche pour Palestiniens, un glissement vers le terrorisme chiite. Dans tous les cas, et si je voulais commencer par ces deux exemples, le rôle de ces Japonais, de l'armée rouge japonaise et des Tigres Tamouls souligne la complexité des liens entre attentats-suicides et religion. Ce qui soulève une question, qui est la question centrale, que recherchent, qu'espèrent, quel salut espèrent ceux qui ont recours à l'attentat-suicide ? Alors, plusieurs éléments de réponse figurent dans la rhétorique terroriste, et vous me pardonnerez de citer essentiellement, pour le coup, aujourd'hui, des arguments terroristes et le discours terroriste, à la fois texte de revendication et discours en recherche de légitimité. Mais il faut les étudier pour mettre en perspective, et à mon avis, trois éléments sont à mettre en avant. Les rapports entre le mode de diffusion de l'attentat-suicide et les arguments théologiques dans une première partie. Ensuite, la dimension religieuse du salut pour les auteurs d'attentats. Et enfin, leur corrélation sociale et peut-être la recherche d'autres types de salut, pas forcément religieux. Alors, je commencerai par l'étude de la diffusion de ce mode opératoire, l'attentat-suicide à la fois dans le temps et dans l'espace. Car deux modèles différents me semblent importants à distinguer. Le premier cas de figure concerne le chiisme. Si les islamistes récusent le mot kamikaze et son histoire, ils se réclament, pour la composante chiite, d'un autre héritage, celui de la secte des assassins et de son fondateur Hassan al-Sabah. Il n'est pas anodin que ce soit chez les chiites, comme l'étaient les membres de la secte des assassins, qu'émergent, dans le sillage de la révolution iranienne de 1979, de nouvelles formes sacrificielles de combat. Le martyr, évidemment, est au cœur du chiisme, dont les fêtes de l'Ashura commémorent celui du troisième imam, Hossein, décapité par les troupes du calife sur le champ de bataille de Karbala. Alors, le prince des martyrs, c'est le surnom donné au troisième imam, meurt sans avoir embrassé la victoire, mais cette victoire s'effectue post-mortem par la mise à nu de l'illégitimité du pouvoir adverse. La réinterprétation du martyr d'Hossein est centrale dans le sillage de la révolution de 1979. Pour plusieurs raisons, la dégradation de la situation économique en Iran, les luttes internes pour le pouvoir, la guerre Iran-Irak, tout ça constitue un nœud de désillusion après les espérances de la révolution. Et tout cela va accréditer chez certains l'idée que la fin des temps est proche. Et faute de pouvoir vivre comme il le souhaiterait dans le temps présent, des centaines de milliers de jeunes Iraniens choisissent la voie du martyr pour satisfaire leur quête d'absolu et assurer leur salut dans l'au-delà, faute de le faire sur Terre. Alors, ils le font d'abord dans le cadre de la guerre Iran-Irak, mais ces formes sacrificielles de combat, étudiées en particulier par Farhad Khosrokavar, débordent très rapidement l'armée iranienne et vont inspirer les groupes chiites qui prônent la lutte armée, d'abord au Liban, puis en Palestine. Le tout premier attentat suicide commis par ces groupes vise l'ambassade d'Irak à Beyrouth en décembre 1981, très vraisemblablement commandité par l'Iran de Khomeini. Dès 1983, le Hezbollah libanais engage une série d'attentats suicides contre les présences françaises et américaines au Liban. Et à partir de 1984, une autre vague d'attentats suicides cible les Israéliens. Dans un premier temps, toujours sur le territoire libanais, puis sur celui d'Israël. Alors, pour le Hezbollah, cette pratique s'avère tactiquement utile. D'abord, elle est plus économique qu'une guerre frontale, notamment dans le contexte d'un rapport de force défavorable. Elle permet d'infliger de lourdes pertes. 58 parachutistes français tués par un seul attentat au Drakkar. Et surtout, son impact psychologique sur l'ennemi se révèle extrêmement important. Cela dit, et c'est un point qui me semble intéressant à souligner, les modes opératoires du Hezbollah diffèrent en fonction des théâtres d'opération. Pour rester sur le cas de la France, l'attentat du Drakkar contre la France est un attentat suicide sur le territoire libanais. Mais les 14 attentats commis en France entre 1985 et 1986 sont réalisés par un commando clandestin qui prend de multiples précautions pour ne pas être identifié, pour protéger ses membres. Si la méthode diffère, c'est que l'objectif n'est pas le même. Au Liban, les membres du Hezbollah se sacrifient pour faire vivre la communauté nationale. Ils dessinent, je reprends l'expression de Farhad Khosrokavar, ils dessinent la frontière avec leur sang. À l'extérieur, ce n'est pas le même type de combat. Et en particulier, les attentats commis sur le territoire français visent à faire pression sur le gouvernement français. On est à la fois dans l'affaire Eurodif et pour obtenir la libération d'Anis Nakash. L'intérêt n'est pas vital au sens premier du terme, mais surtout l'infiltration du commando a nécessité des précautions, une logistique. Il est important de préserver son caractère opérationnel, de ne pas sacrifier inutilement ses membres. Et finalement, cette différenciation territoriale entre attentats sur le sol français et attentats suicides sur le sol libanais répond d'abord à des critères opérationnels, pragmatiques et pas religieux. Et elle témoigne finalement d'un mélange au sein des groupes chiites entre une dimension religieuse et nationaliste et la recherche d'une efficacité militaire. Alors, les choses sont très différentes avec les organisations sunnites, en partie parce que le martyr n'occupe initialement pas la même place chez les sunnites que chez les chiites. Et d'ailleurs, les premiers attentats suicides commis par les groupes armés chiites suscitent la réprobation. Ils sont lus comme des suicides déguisés, interdits par l'islam, qui attribue à Dieu seul le droit de donner ou de prendre la vie. Mais voilà, la condamnation théologique n'empêche pas que des jeunes sunnites ont recours aux attentats suicides. Et là aussi, dans un premier temps, dans un cadre territorialisé, avec un mode opératoire inspiré par les organisations chiites proches. Le tournant s'opère dans les années 90, d'abord dans le cadre du conflit israélo-palestinien, où le lien entre chiisme et attentats suicides se dissipe. À partir de 1994, le Hamas puis le djihad islamique ont recours aux attentats suicides. L'attentat suicide constitue un élément clé de la seconde intifada. On le retrouve aussi au Cachemire, où ça devient une stratégie privilégiée de la lutte armée à partir de la seconde moitié des années 90. Dans ce cadre, à la même période, en Europe, on a une situation un peu intermédiaire concernant l'Europe et les États-Unis. Certains terroristes sunnites vont rechercher la mort sans commettre à proprement parler des attentats suicides. Alors, à une exception près, peut-être, les membres du commando qui détournent le vol Alger-Paris en 1996, on a beaucoup parlé et étudié sur leur projet, on a évoqué leur intention de jeter l'avion sur la tour Eiffel, auquel cas ça aurait été un attentat suicide. Dans tous les cas, ils meurent dans la fusillade qui suit l'assaut du GIGN, ils savent qu'ils ne s'en sortiront pas. On a un peu la même chose avec Khaled Khalkhal. Là, ce sont les attentats du GIA de 1995. Il est abattu lors d'une fusillade avec la gendarmerie. David Valat, qui est un converti proche de Khalkhal, qui lui a fourni son arme, va expliquer la règle, c'est de ne pas se faire prendre vivant. Quand Calcal voit les gendarmes, il sait qu'il va mourir, il veut mourir, mais il n'utilise pas sa mort et son corps comme une arme. On est donc dans une situation un peu intermédiaire. Parmi les facteurs qui vont conduire à la globalisation progressive de l'attentat suicide, je pense qu'il faut souligner la mondialisation du concept de djihad, qui découle de son individualisation. Alors, initialement obligation collective liée à une forme de service militaire, le djihad évolue sous la plume des théologiens radicaux. L'égyptien Farag en fait l'obligation absente, le sixième pilier de l'islam, qui, de manière pour lui inexplicable, n'est pas défini comme tel dans le Coran. À sa suite, le palestinien Abd al-Azam va en faire la première obligation du croyant après l'acte de foi. Il fournit 16 arguments à l'appui de sa thèse. Le sixième fait des djihadistes l'avant-garde de l'islam, la base, Al-Qaïda, sur laquelle pourra se construire une société véritablement islamique. Le huitième fait du goût pour le martyr la porte d'accès au paradis. Et le 16e fait du djihad l'acte de dévotion le plus élevé. L'Américain d'origine yéménite Anwar el-Awlaki va étendre son obligation à tous les musulmans, femmes et enfants compris. Mais surtout, il explique que le djihad offre la possibilité d'appartenir à l'avant-garde, à une élite de la communauté musulmane. Pour lui, l'Oumma se compose de plusieurs groupes, mais un seul l'est de musulmans authentiques. Il s'appuie sur un hadith, celui des 73 sectes. « Ma communauté se divisera en 73 sectes et toutes iront en enfer, sauf une. » Dans cette conception, il ne suffit pas de croire, de bien faire pour être sauvé. Seule une minorité le saura. Et le salut réside dans le sacrifice, la mort consentie. Ainsi, progressivement, pour ceux qui vont adhérer à ces idées, le djihad cesse d'être un service militaire pour la défense de l'islam et il devient une école de formation religieuse et militante. De cette transformation du djihad découle une conception nouvelle de l'attentat suicide, davantage attentat que suicide. Alors, les divisions internes à l'islam demeurent. D'abord, il faut toujours le rappeler, même si c'est une évidence, parce que la majorité des théologiens musulmans condamnent le terrorisme, donc a fortiori l'attentat suicide, mais aussi parce qu'on va trouver des divisions autres, plus politiques. Un seul exemple, les attentats du 11 septembre sont condamnés par presque tous les théologiens chiites, et y compris ceux qui en même temps exaltent les attentats suicides commis par les membres du Hezbollah, pour des raisons qui ne sont pas théologiques, mais essentiellement parce que les deux organisations à ce moment-là, Hezbollah et Al-Qaïda, entrent en rivalité qu'il y a une concurrence politique et médiatique également entre les deux organisations. Alors, pour autant, des points communs émergent dans les discours terroristes sur les attentats suicides. Et c'est ce que je voudrais évoquer maintenant. Quel salut espèrent ceux qui vont commettre ces attentats suicides? Et là, je passerai vraiment à l'échelle des individus. Alors, si on regarde la dernière génération avec les militants de l'État islamique, lorsqu'ils arrivent sur le territoire du califat, ceux qui choisissent de partir sur zone et donc de rejoindre l'État islamique commencent par remplir un formulaire administratif. Ça paraît assez curieux de l'imaginer, mais c'est le premier acte lorsqu'ils arrivent sur le terrain. Ils remplissent un formulaire administratif où ils précisent par écrit un certain nombre d'informations. Et d'abord, s'ils acceptent, oui ou non, de mourir en martyr, s'ils l'envisagent. Et tous, combattants ou non, femmes, enfants, doivent indiquer les noms des personnes à prévenir après le décès. Autrement dit, la mort est d'emblée associée à l'adhésion à l'État islamique. Et finalement, l'attentat suicide est d'emblée présenté comme la finalité de l'engagement. Alors, les nouveaux venus n'ont pas à s'occuper de théologie. On va leur fournir sur place le cadre référentiel dont ils ont besoin. Et les jeunes qui rejoignent l'État islamique reconnaissent volontiers manquer de culture religieuse. Toujours dans ces mêmes formulaires, près de 70% déclarent avoir des connaissances limitées de l'islam. La question clé n'est pas celle de la théologie, c'est pas même pas celle de la religion, c'est celle de la religiosité. En revanche, certains arguments ressortent régulièrement dans leurs discours. Le premier argument, c'est qu'il s'agit de venger les atteintes à l'Oumma, l'idée de la vengeance. Pour ces djihadistes qui aspirent au martyre, il s'agit de se sacrifier pour venger la communauté. Et le salut réside dans le sacrifice de soi au service de la communauté, de l'Oumma. Et pour ça, le discours terroriste procède à une inversion systématique des responsabilités qui va légitimer le martyr. L'auteur de l'attentat suicide est la vraie victime dans ce discours, et les victimes sont les bourreaux de la communauté musulmane. Presque tous les discours terroristes contemporains, que ce soit ceux des revenants, ceux diffusés par les revues de l'État islamique, les revendications des attentats, c'est ce qui ressort de beaucoup des procès qui se déroulent actuellement, tous ces discours évoquent pêle-mêle les bombardements occidentaux en Syrie, les souffrances des Palestiniens, les souffrances des Ouïghours, les enfants musulmans victimes des croisés, des Romains. Alors on trouve déjà ces évocations dans les discours de Ben Laden. En 1996, Ben Laden évoque dans sa déclaration de guerre à l'Occident les massacres, je le cite, du Tadjikistan, de Birmanie, du Cachemire, d'Assam, des Philippines, de Patani, de l'Ogaden, de Somalie, d'Érythrée, de Tchétchénie, de Bosnie-Herzégovine, etc., etc., etc. Il reste toute la liste de ces attaques contre, de ces souffrances endurées par les musulmans. Alors, on voit notamment dans les revendications et dans les discours contemporains que ces souffrances ne sont pas toujours bien précises, ni spatialement, ni chronologiquement. Dans les vidéos de propagande de l'État islamique, on trouve des images d'atrocités un peu pêle-mêle de divers théâtres d'opérations, rarement datées, rarement légendées, mais toutes incarnent l'idée de la souffrance de la communauté musulmane. Et chacune participe de la métaphore de l'opposition séculaire entre d'un côté les musulmans et de l'autre. On les qualifie soit de judéo-croisés, soit de romains. Et le terroriste va redévelopper ce discours. Alors, Koulibaly, lors de la prise d'otage de l'hypercacher, explique à ses victimes qu'ils vont vivre ce que vivent les musulmans. Les bourreaux de l'État islamique organisent leurs exécutions pour reproduire la mort de ceux qu'ils veulent venger. Ils habillent leurs victimes en orange pour rappeler les tenues de Guantanamo. Et ils prétendent dupliquer les méthodes de mise à mort pratiquées par les Occidentaux contre les musulmans. C'est-à-dire qu'on brûle ou qu'on fait exploser les prisonniers pour symboliser les bombardements et venger les bombardements. Les revendications des attentats du 13 novembre 2015 reprennent exactement ces discours. Les paroles du Nashid, le chant qui accompagne dès le 14 novembre la revendication des attentats du 13, expliquent dans le refrain que l'objectif était bien le martyr. « Bats-toi jusqu'à la rencontre du Tout-Puissant, la mort ». Et le chant qui accompagne la deuxième vidéo de revendication, qui date, elle, du 24 janvier 2016, précise, je le cite, « Ce sont des terroristes, ceux qui terrorisent les musulmans. Nous sommes des terroristes, ceux qui terrorisent les mécréants. Vous ne serez à l'abri ni dans vos maisons, ni dans vos têtes. » Alors, les terroristes sont d'abord ceux qui terrorisent les musulmans. Alors, on peut noter qu'ici, les auteurs acceptent de reprendre à leur compte le mot « terroriste », qui est extrêmement rare, sans doute dans un souci d'efficacité de communication à l'égard de leur cible française. Dans la même vidéo du 24 janvier 2016, les testaments lus par les membres du commando évoquent tous les bombardements français en Syrie. Or, et c'est là que le point est important, les enquêteurs ont pu dater les prises d'images de ces vidéos. Évidemment, un attentat comme le 13 novembre ne s'est pas organisé en quelques jours, même pas en quelques semaines. Et à partir d'images sur place et notamment de bâtiments détruits depuis, les enquêteurs ont déterminé que ces vidéos avaient été tournées sans doute aux alentours de février 2015. Or, les bombardements français en Syrie ont commencé le 27 septembre 2015. Voilà, donc l'argument, évidemment, est fortement décalé, était une adaptation de la réalité des faits. Alors, si tous les djihadistes mettent en avant cette souffrance comme explication de leur radicalisation, et je le pense, on peut en débattre, mais l'éprouvent sincèrement, ce sentiment d'humiliation, c'est une humiliation qui est presque toujours vécue par procuration. De fait, très peu sont originaires des pays dont ils se réclament et dont ils veulent venger, qu'ils veulent venger, pardon. Ils s'identifient à des souffrances, mais ils s'identifient par un choix qui est fondé sur autre chose que leur situation objective, essentiellement en visionnant des vidéos sur Internet. Et donc, ils se placent dans un monde assez largement fantasmé. Et les jeunes qui partent combattre en Syrie en justifiant leurs décisions par les souffrances du peuple palestinien, par exemple, ignorent, ou préfère consciemment ignorer que l'État islamique a attaqué le camp palestinien de Yarmouk en mars 2014 et exécuté des cadres du Hamas. Et de fait, lorsqu'ils rejoignent l'État islamique, ils participent à des combats contre le Hezbollah, qui pourtant, évidemment, incarne aussi la lutte contre l'État d'Israël. Donc un discours éloigné de la réalité. Et finalement, dans leur logique, peu importe. Parce que le sacrifice au nom de l'Oumma doit tout effacer, y compris les erreurs, et le martyr est censé purifier celui qui s'y résout et effacer finalement tout ce qu'il a pu commettre de mal, d'erreur auparavant. C'est ce qui explique qu'on retrouve parmi les radicaux et parmi ceux qui vont commettre ces attentats suicides un certain nombre de jeunes qui ont eu une vie plutôt profane. On va retrouver des gens qui sortent en discothèque, qui boivent de l'alcool, pas mal de petits délinquants qui trouvent soudain une pratique religieuse, soit de manière individuelle, soit dans le cadre d'un petit groupe, et qui vont finalement utiliser l'attentat suicide pour effacer, gommer complètement leur passé. Alors, on le retrouve avec les frères Abdeslam, qui géraient un bar, qui d'ailleurs s'appelait les Béguines, référence plutôt chrétienne, où on servait de l'alcool et qui sortaient en boîte de nuit au cours des mois qui ont précédé l'attaque contre le Bataclan. Alors, on retrouve ces témoignages assez souvent. Je voudrais en citer un. La femme d'un djihadiste mort dans un attentat suicide témoigne de cette idée dans le numéro 8 de Dar al-Islam, la revue francophone de l'État islamique. Elle écrit « Comme beaucoup de frères et de sœurs qu'elle a guidés, il vivait avant cela dans les ténèbres de l'ignorance. Comme beaucoup également, pendant longtemps, il est resté dans l'erreur. Il avait fini par saisir que le seul moyen de réaliser cet islam était de sacrifier son corps et son âme au service de sa religion, afin d'obtenir la meilleure des récompenses. Et donc, il a commis un attentat suicide. Cette mort efface tous les péchés, mais explique que ceux qui ont choisi cette voie se dispensent d'un certain nombre de contraintes religieuses. Ils peuvent boire de l'alcool, sortir, danser, manquer à toutes les règles qu'ils professent pour les autres, puisque de toute façon, leur mort effacera les péchés et les manquements. » Alors, non seulement l'auteur de l'attentat suicide pense ainsi assurer son salut, mais bien souvent, il espère aussi sauver ses proches. Et là, le noyau familial est essentiel pour les djihadistes. Alors, d'abord, on peut le souligner, ce sont souvent des familles complètes ou des morceaux de famille, entre guillemets, qui vont rejoindre le djihad. Alors, on a l'exemple de la famille Klein, une trentaine de personnes, la famille en entier, va franchir le pas. Très souvent, on va trouver des fratries. Dans le cas de la cellule qui est responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et du 22 mars 2016 à Bruxelles, on trouve 5 couples de frères, 6 si l'on compte Abaoud dont le frère est en Syrie et qui associe sa cousine à la logistique des attentats. Les Kouachi, l'attentat contre Charlie Hebdo, sont aussi 2 frères. On va retrouver ce schéma assez fréquemment. Alors, certaines de ces fratries sont en rupture avec leurs parents. Les Kouachi étaient orphelins, mais d'autres, pas du tout. D'autres s'entendent même très bien. La rupture n'est pas forcément une révolte contre les individus que sont les parents ou contre la génération. En revanche, on va trouver une révolte contre un certain type d'islam représenté par les parents. Et je cite de nouveau David Vallat, ce proche de Kalkal, qui explique que le discours des prêcheurs radicaux oppose, je le cite, « l'islam de leur père, c'est celui que les colons ont laissé, l'islam de ceux qui courbent les chines et qui obéissent. Eux, leur islam, c'est celui des combattants, des résistants. » Bref, ces jeunes pensent mieux comprendre la religion que leurs parents. Ils tentent souvent de convertir, reconvertir, d'entraîner leurs parents. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans le testament d'Abdelhamid Abaoud. Il appelle ses parents à craindre Allah, à se repentir, à faire la hijra, à combattre. Mohamed Merah va jusqu'à organiser le mariage de sa mère avec le père de l'un de ses amis radicalisés. Il prend en charge finalement la vie de sa mère comme des parents devraient prendre en charge la vie des enfants. On est dans une inversion générationnelle dans ce rapport. Et finalement, en mourant volontairement avant leurs parents, ces jeunes achèvent d'inverser cette relation générationnelle par leur mort volontaire. Et ce faisant, ils cherchent à assurer leur salut, mais à assurer le salut de leurs proches, de leur famille, pour espérer intercéder pour eux. Alors, au-delà de l'espérance du salut, on voit finalement aussi une certaine fascination pour la mort qui apparaît, qui émerge, ce fameux « nous aimons la mort » qui s'inscrit dans une perspective apocalyptique. aucun autre avenir n'est possible. Ce discours apocalyptique s'inspire du profond pessimisme déjà présent dans l'œuvre de Seyd Copte. On va retrouver ça poussé à son paroxysme dans le discours de l'État islamique. Le titre même de la revue de Daesh, alors la deuxième, il y a Dar al-Islam, et l'autre c'est Dabiq, en témoigne. Dabiq, c'est cette petite ville du nord de la Syrie où, selon un hadith, doit avoir lieu l'ultime bataille entre les Romains et les musulmans, c'est-à-dire l'Armageddon. Et finalement, les militants de l'État islamique attendent cette apocalypse imminente où seule une minorité sera sauvée, celle de cette élite qui aura accepté le sacrifice ultime dans la mort sacrée. Et là, le suicide est messianique. Dans cette dimension apocalyptique, finalement, le djihadiste est aussi un nihiliste. Et là, on le perçoit assez rapidement, dès la campagne des frères musulmans en Égypte. Pour eux, le problème du monde musulman, c'est d'abord l'impiété de ses dirigeants. Et l'assassinat de Sadat en 80 est censé déclencher une conscientisation du peuple, entraîner un soulèvement. Et finalement, l'idée est exactement la même que celle de la propagande par le fait pratiquée par les anarchistes au XIXe siècle. Alors, il peut sembler un peu paradoxal de comparer le terrorisme islamiste au nihilisme des anarchistes du XIXe siècle qui émane d'une idéologie athée. Et pourtant, il me semble, et c'est ma troisième partie, que certains éléments de convergence apparaissent et qu'il est intéressant d'observer l'articulation du religieux et du profane. D'abord, l'islamisme va emprunter à la rhétorique anti-impérialiste. Les pays occidentaux sont des ennemis en raison de conflits de valeurs, des valeurs sociales, politiques, économiques, et on va assez fréquemment trouver ces liens. Les moudjahidines du peuple en Iran se réfèrent à la pensée d'Ali Shariati, qui propose une synthèse de l'islam et de la critique marxiste de l'impérialisme, et qui a, détail intéressant, été le traducteur du livre de Frantz Fanon, Les damnés de la terre. L'itinéraire du Vénézuélien Ilich Ramirez Sanchez, alors, qui est actuellement emprisonné en France sous le nom de Carlos, est un autre exemple qui me semble assez emblématique. Il commence au service de la cause palestinienne, en l'occurrence du FPLP marxiste. Il se convertit à l'islam en 1975 et puis il va finalement proposer une synthèse entre islamisme et idéologie révolutionnaire dans son livre « L'islam révolutionnaire » publié en 2003. Il écrit « Je suis et demeure un combattant révolutionnaire et la révolution aujourd'hui est avant tout islamique ». Si j'osais, je dirais qu'il a théorisé le concept d'islamo-gauchisme. Second élément de comparaison, l'argument du désespoir invoqué par les terroristes islamistes. Lui aussi, on le trouve chez les anarchistes. Auguste Vaillant déclare « Las de mener cette vie de souffrance et de lâcheté, j'ai porté cette bombe chez ceux qui sont les premiers responsables des souffrances sociales ». Et finalement, c'est ce qu'on va retrouver dans un certain nombre de discours djihadistes également. Alors, au rapprochement des discours s'ajoute celui des espérances, car au-delà du salut religieux, bon nombre de djihadistes recherchent, et peut-être d'abord, un salut social. Alors, je voudrais évacuer d'emblée l'argument de la désespérance par la pauvreté. On dispose d'énormément de travaux sur les profils des terroristes, et notamment les auteurs d'attentats suicides, qui démontrent qu'ils n'appartiennent que très rarement aux couches sociales les plus pauvres de la société à laquelle ils appartiennent. Je pense aux travaux de Nasra Hassan, qui a étudié les profils de 150 personnes impliquées dans les attentats suicides de la seconde intifada et qui montre qu'aucune n'a de personnalité suicidaire, aucun illettré, aucun est pauvre, la plupart appartiennent aux classes moyennes et en tout cas tous ont un emploi rétribué. Claude Bérébi obtient les mêmes résultats sur les Palestiniens et les Libanais auteurs d'attentats suicides. Et si on regarde le profil des Européens partis faire le djihad et qui commettent des attentats suicides, on a des profils assez variés, mais très peu ont ce profil d'extrême pauvreté. Et en tout cas, lorsqu'ils se trouvent dans une forme de précarité financière, et là, on en a effectivement, mais c'est souvent la conséquence et pas l'origine de la radicalisation. Souvent, ils quittent leur emploi ou ils abandonnent leurs études pour se consacrer à la religion. C'est donc un choix qu'ils ont fait de se mettre en marge d'une société qu'ils rejettent et pas l'inverse. Donc le salut social qu'ils recherchent me semble d'une autre nature qui renvoie plus à une forme de culture jeune, voire une culture pop, et notamment celle du super-héros. On observe chez les djihadistes des postures narcissiques assez peu compatibles avec l'humilité du croyant, y compris dans leur rapport à la mort. D'abord, dans la façon de les mettre en scène. Mohamed Merah a filmé avec une caméra GoPro les assassinats et il projetait de les faire diffuser sur Al Jazeera. Koulibaly, vous vous en souvenez certainement, appelle les chaînes de télévision hein, en plein milieu de sa prise d'otage, il donne des interviews, il cherche la médiatisation, il cherche la lumière. En 2016, Larossi Abala filme, diffuse l'attentat et les meurtres qu'il est en train de commettre à Magnoville sur ce couple de policiers et organise une sorte de jeu de télé-réalité assez morbide pour savoir, avec ceux qui sont en train de regarder ces vidéos, est-ce que vous voulez que je tue ou pas l'enfant ? Il y a véritablement quelque chose qui rappelle là presque la télé-réalité et les votes des téléspectateurs. Alors, bien sûr, il tente de donner une connotation religieuse à ces images. Celle d'abord de quelqu'un qui mène une vie vide ou normale et puis qui reçoit un appel, une transcendance qui va le transformer en un personnage presque tout puissant. Ils construisent tout ça dans un imaginaire islamique et les images en question sont accompagnées de citations coraniques, de hadiths, mais fondamentalement, on trouve derrière un imaginaire occidental. Alors, les vidéos de l'État islamique sont particulièrement significatives de cette tendance. Les techniques de montage vidéo sont inspirées de celles de clips, de jeux vidéo, de télé-réalité, un rythme très rapide, une voix off qui raconte, qui explique, des vidéos qui sont scénarisées avec des ralentis dramatiques. On trouve très souvent les filtres cibles qu'on va trouver dans les jeux vidéo. Voilà, ces petits points qui quadrillent l'écran. Donc, tout un ensemble d'images vraiment qui en appellent à une culture jeune. La violence des exécutions est aussi mise en scène et on le sait, certaines sont répétées avant d'être filmées. Ça a vraisemblablement été le cas de la vidéo qui montre l'atroce exécution du pilote jordanien en janvier 2015. Et même les tenues des djihadistes sur ces vidéos évoquent plus celles de ninja que celles de la tradition islamiste. On voit dans ces vidéos aussi de nombreuses scènes qui montrent des combattants, cheveux au vent, qui parcourent le désert dans de gros 4x4, là aussi des images issues des jeux vidéo. Bref, ces anciens petits délinquants se mettent en scène comme des héros de films d'aventure. Et là, on voit bien qu'ils recherchent aussi une forme d'émancipation sociale, autant, sinon plus, que religieuse. Alors, cette ambition sociale, et je terminerai par là, peut même revêtir une dimension genrée. Chez les chiites, le corps de la femme n'est pas admis au martyr. Et pourtant, l'interdiction, là aussi, n'empêche rien. Ces femmes vont commettre des attentats suicides. Chronologiquement, elles le font même assez précocement. Je prendrai un exemple tout d'abord. En 1985, une jeune femme de 17 ans, Sana Meghli, elle est née en 1968 au sud Liban, dans une famille chiite, mène un attentat suicide contre une patrouille israélienne. Alors, elle ne le fait pas dans le cadre d'une organisation religieuse, mais pour le Parti national syrien social, qui prône la formation de la Grande Syrie. Et c'est dans ces partis nationalistes, tout d'abord, que les femmes vont jouer ce rôle important dans le cadre des attentats suicides. Dans son testament vidéo, et je voudrais vous en lire un extrait, elle reprend le vocabulaire de la mort sacrée et du martyr. Elle dit « Je suis la martyre Sana Youssef Meidli. J'ai 17 ans, je suis du sud Liban, le sud occupé et opprimé. Que votre joie éclate au jour de ma mort comme si c'était celui de mon mariage. J'espère que mon âme rejoindra celle des autres martyrs et retombera comme la foudre sur la tête des soldats ennemis. Je ne suis pas morte, mais toujours vivante parmi vous. Je chante, je danse, je réalise toutes mes ambitions. Je suis comblée d'incarner l'héroïsme et le martyr. Ne pleurez pas sur moi, soyez heureux, riez, puisque dans la vie, il est toujours des gens pour vous apporter l'espoir de la libération. Je suis désormais enracinée dans la terre du Sud que je fortifie de mon sang et de mon amour. Ô ma mère, comme je serai heureuse lorsque mes os seront départagés d'avec ma chair, lorsque mon sang grondera sur la terre du Sud, je vais à la mort pour ne pas l'attendre. Mon dernier vœu est que l'on me nomme la mariée du Sud. » On trouve dans ce testament tous les thèmes habituels du discours qui entoure les attentats suicides. La glorification de la mort, la vengeance, la victime, le bourreau victime, et on va trouver aussi tout ce qui est autour de la métaphore du sang qui fertilise le territoire et qui dessine les frontières. Mais dans le cas des femmes, un autre sujet est récurrent, et on le voit bien apparaître ici en force avec sa dernière demande, que l'on me nomme la mariée du Sud, c'est l'identification du martyr au mariage. Comme dans le mariage, la femme s'accomplit par la mort, par l'attentat suicide, et elle trouve dans la mort une voie d'émancipation. Alors, ce discours sur l'émancipation par le martyr est aussi directement mis en avant dans le cas des femmes tamoules. Au Sri Lanka, les tigres tamouls ont très souvent eu recours aux femmes et aux enfants pour commettre les attentats suicides. Alors, honnêtement, les femmes présentent pour eux de nombreux avantages. Le premier, et là il faut se replacer dans l'ambiance du Sri Lanka, les femmes tamoules peuvent dissimuler très facilement leur ceinture explosive sous leur sari, alors que les hommes qui au Sri Lanka sont assez fréquemment en t-shirt, évidemment c'est un peu plus compliqué. Surtout, les femmes peuvent s'approcher davantage, beaucoup plus près de leur cible. Elles suscitent moins l'attention des services de sécurité cingalais. Mais dans son étude sur les attentats suicides commis par les tigres tamouls, Éléonore Pavé, qui travaille pour l'ONU, souligne « Dans les cultures traditionnelles comme la culture tamoule, le rôle de la femme est un rôle de soumission et d'obéissance. Rejoindre les tigres tamouls symbolise pour elle une certaine indépendance, une liberté de choix. La femme tamoule a vraisemblablement envie de rompre avec les stéréotypes qui gouvernent sa vie et de prouver qu'elle est capable d'autre chose. » Et de citer ce poème rédigé par Vanati, une cadre tamoule tuée au combat, « Son front ne sera pas orné d'une marque de safran, mais de sang. On voit se refléter dans ses yeux non la tendresse de la jeunesse, mais les tombeaux des morts. Ses lèvres ne prononceront pas des paroles inutiles, mais les déclarations de ceux qui sont tombés au combat. À son cou ne pendra pas un talim, une capsule de cyanure. Elle a embrassé non des hommes, mais des armes. Ses pas ne la mènent pas vers la compagnie d'une famille, mais vers la libération de la terre des lames. » Autrement dit, dans un cadre géographique et culturel très différent de celui du Liban, on retrouve le thème de l'émancipation de la femme via le martyr et la comparaison avec le mariage. Et de nouveau, dans la mort, la femme se marie et finalement, c'est une autre forme de famille qu'elle va accomplir. Alors, ce discours d'émancipation, c'est le dernier exemple que je prendrai, on le retrouve aussi avec le cas d'Idriss Wafa, la toute première femme palestinienne, qui, elle, déclare avant de mourir, je la cite, « Permettre à une femme d'accéder au martyr constitue une étape décisive vers l'égalité des sexes dans le monde arabe. » Donc là, l'émancipation et le discours d'émancipation est clairement affiché. Alors, dans le cas d'Idriss Wafa, ce cas me semble aussi intéressant du fait du discours politique et médiatique que la mort de cette infirmière a suscité. En 2002, Patrick Chauvel lui a consacré un documentaire, « Kamikaze 47 », on retrouve l'expression « kamikaze », l'histoire de Wafa Idriss, elle a fait la une du Time le 15 avril 2002 et la presse occidentale lui consacre de façon générale énormément d'articles. Alors, en Occident, la surmédiatisation de la figure d'Idriss Wafa me semble venir en grande partie du fait que son profil ne colle pas avec l'image qu'on se fait du kamikaze et notamment d'un attentat suicide palestinien. D'abord, c'est une femme. La femme donne la vie, pas la mort. On a là une forme de tabou sur la violence féminine. Facteur aggravant, c'est une infirmière. L'infirmière doit soigner et pas tuer. Et puis, c'est une femme diplômée. Et le Time met sciemment en une la photo de sa remise de diplôme dans la toge. Donc, tous ces éléments ne coïncident pas avec l'image qu'on se fait des auteurs des attentats suicides. D'autant qu'elle s'est engagée auprès de la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, branche armée non religieuse du Fatah. Donc la foi ne va pas expliquer non plus. Alors là, on a deux images, deux médiatisations parallèles. La première, qui est occidentale, va insister sur la vie privée d'Idriss Wafa. Elle est divorcée, son divorce a dû la fragiliser. Elle est stérile et on montre des photos d'elle avec des enfants. Elle est stérile, elle doit mal vivre le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Donc sa féminité, finalement, est remise en question par ses biais. Et donc, l'explication première serait qu'elle est mal dans sa peau et qu'il y a une forme de désespérance individuelle qui va expliquer ce geste. L'intéressant, c'est de comparer avec la médiatisation palestinienne. Côté palestinien, c'est une photo en particulier qui est utilisée, qui est diffusée lors de ses funérailles et dans toutes les manifestations. C'est une photo d'Idriss Wafa, adolescente, qui participe à l'intifada, et à la première intifada. Et dans toute la médiatisation palestinienne, on insiste sur le fait que c'est une militante de longue date et que l'attentat suicide est l'aboutissement d'un parcours militant, d'un engagement finalement qui semble assez logique. Point intéressant, le jour même de l'attentat, Yasser Arafat va populariser un mot nouveau créé pour Idriss Wafa, Shahida, martyr, au féminin. On féminise l'expression. Alors, surtout, côté palestinien, la surmédiatisation qui a entouré la mort d'Idriss Wafa en Occident montre que le cas d'une femme auteur d'un attentat suicide est beaucoup plus efficace sur le plan de la communication que le cas d'un homme. Ce qui conduit le Hamas à modifier sa position sur les femmes martyrs. Et après la mort d'Idriss Wafa, le Hamas va édicter une fatwa autorisant les femmes à commettre des attentats suicides. Alors, elles resteront seront les organisations islamistes à encourager les femmes à franchir le pas. Mais on a vraiment cet exemple de la médiatisation et de l'efficacité. Je reviens sur la question de l'efficacité vraiment militaire, mais psychologique, de l'utilisation de la femme. L'attentat suicide s'avère être une arme efficace contre les Occidentaux et plus encore lorsqu'il est commis par une femme. Alors, pour conclure, je voudrais insister sur trois points. Le premier, c'est celui de la progressive mondialisation de l'attentat suicide comme mode opératoire du terrorisme et notamment du terrorisme islamiste. Même s'il ne constitue que l'une des mises en pratique, il continue à susciter le débat, y compris chez les responsables de cette mouvance terroriste. Le deuxième point, parmi les facteurs de cette montée en puissance, les références religieuses fonctionnent en parallèle avec des considérations politiques et tactiques. Le mode opératoire renvoie peut-être à la petite guerre, au sens clausewitzien du terme, mais à une guerre survalorisée. Et en ce sens, peut-être pouvons-nous dire, avec Hélène Leuillet, que l'attentat suicide, je la cite, n'est pas un accident du terrorisme, mais son essence et son point culminant inscrit dans sa logique. Aussi, et c'est le troisième point, retrouve-t-on le même mélange profane-sacré dans les composantes, à la fois religieuses et sociales, qui explique à l'échelle individuelle le passage à l'acte, avec en point d'orgue un rapport entre l'individuel et le collectif, fonctionnant de deux manières, à la fois différentes et associées. Sur le mode de l'articulation, le salut du kamikaze est associé au salut de ses proches, à la défense de l'Ouma, et sur le mode de la différenciation, certains itinéraires d'auteurs d'attentats suicides nous montrent que le sacrifice suprême à valeur religieuse peut tout à la fois permettre de se voir en super-héros, ce qui ne renvoie pas tout à fait à une figure sacrée, de s'affranchir des règles du bien-vivre et de s'en voir pardonner dans l'au-delà. Et c'est sans doute là qu'il faut chercher dans toutes ces articulations, parfois dissonantes, entre le religieux et le profane, l'individuel et le collectif, l'un des facteurs, malheureusement, de l'affirmation de l'attentat suicide. Je vous remercie.
Merci infiniment pour cet exposé. Vous n'avez lu qu'une partie de ce que j'ai sous les yeux et qui contenait beaucoup d'autres choses, mais bon, nous reviendrons sans doute là-dessus. En tout cas, nous avons jusqu'à présent, si je me suis trompé, 5 questions, et le premier à s'être signalé, c'est Thierry de Montbrial, à qui je donne la parole.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser 2 questions, l'une très précise, historique, et l'autre plus générale. La question historique, c'est la transition entre le terrorisme chiite et le terrorisme sunnite. Pour moi, mais vous allez corriger ou redresser ou préciser, cette transition était extrêmement claire jusqu'à ce jour. C'était la décision des États-Unis en 1990 d'intervenir en Arabie Saoudite, le déploiement des forces américaines sur le sol saoudien. Et je pense par exemple à une conversation prolongée que j'ai eue un jour avec la personnalité saoudienne qui était à l'époque le patron des services secrets saoudiens et qui expliquait que le changement de registre de Ben Laden était très clairement lié à cet événement, c'est-à-dire le sol saoudien souillé, entre guillemets, par le déploiement des forces américaines, d'où l'Afghanistan, etc. Alors, vous êtes passé assez vite, vous avez dit les années 90, moi je vous donne un événement très précis, mais peut-être que vous contesterez cette façon de voir les choses. Alors, ma seconde question, beaucoup plus générale, c'est que l'idée, je crois, on en a déjà parlé une fois depuis le début de l'année, c'est l'idée que des gens plus ou moins cultivés, plus ou moins bien dans leur peau, pour reprendre votre expression, soient tentés de donner leur vie, un sens à leur vie par la mort, c'est une idée vieille comme le monde. Bon. Et vous ne voyez naturellement aucun rapport entre l'exemple que je vais donner, surtout aucun rapport, je ne veux pas de malentendu, mais je suis personnellement convaincu, et beaucoup d'autres avec moi, que c'est ce que fait aujourd'hui M. Zelensky en Ukraine. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement qu'il y a une chance, si j'ose dire, une probabilité très élevée qu'il meure. Et au fond, cet homme qui était un acteur assez médiocre, soutenu par un oligarque et qui devient par hasard président de son pays, est en train de devenir une personne qui, éventuellement, par sa mort, pourrait devenir une figure héroïque, une icône dans l'histoire de l'Ukraine. Bon, je crois que voilà. Alors, c'est la manière dont il se comporte suggère cela. Alors, naturellement, vous voyez bien, je ne suis pas en train de dire que M. Zelensky est un terroriste, vous avez bien compris ça. Ce que je veux dire, c'est que ce phénomène est un phénomène vieux comme le monde. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas regarder un peu les choses aussi du côté des recruteurs? Parce que faire utiliser les jeunes paumés, en particulier, hein, qui ne savent pas ce qu'ils font et qui pourraient faire n'importe quoi, hein, les utiliser, les endoctriner, et les amener à donner par cette voie un sens pervers, mais un sens quand même à leur vie, est-ce qu'il y a des travaux un petit peu sur le phénomène, mais vu du point de vue des recruteurs? Et à ce moment-là, c'est la religion comme ça pourrait être autre chose, comme ça pourrait être une idéologie quelconque. Et d'autre part, une fois le martyr, entre guillemets, mort, la façon dont on en parle, c'est aussi une question de communication organisée. Autrement dit, il y a derrière ça des structures, on peut appeler ça politique, c'est perverse, mais qui sont extrêmement organisées, structurées avant, pour recruter les futurs martyrs et ensuite pour exploiter leur image. Alors voilà, donc c'est peut-être un angle complémentaire, me semble-t-il, quoi que vous ayez fait quelques remarques qui aillent un petit peu aussi dans ce sens. Voilà mes deux questions.
Alors, d'abord, pour ce qui est de la date et de la rupture, je distinguerai deux choses. D'abord, là, je parlais des attentats suicides, pas du terrorisme de façon générale. Et ce n'est pas exactement la même chose, et notamment dans le cadre d'Al-Qaïda. Ensuite, même pour les groupes sunnites, il y a quand même une diversité. Il y a Al-Qaïda, mais il n'y a pas qu'Al-Qaïda. Et on a les groupes nationaux. On a le GIA bien avant. C'est quand même aussi du terrorisme islamiste. Voilà, c'est algérien. On va avoir en Égypte, on va avoir en Indonésie, on va avoir bien sûr le Hamas. Tous ont finalement leur logique indépendante, qui sont des logiques d'abord territorialisées. Al-Qaïda, c'est la mondialisation finalement de ce mouvement. Et dans la mondialisation, bien sûr, on a la rupture fondamentale de la guerre du Golfe, mais la guerre du Golfe ne représente pas la même rupture pour le GIA, pour la Jamaat Islamiya, pour le Hamas, etc. Donc finalement, c'est cette diversité aussi qui rend la datation compliquée. Et on a plutôt des processus d'évolution, et notamment au niveau des théoriciens à ce moment-là, qui marquent. Mais en ce qui concerne les discours de Ben Laden, c'est très net, c'est la présence des Américains sur le sol sacré, voilà, d'Arabie Saoudite, qui est la rupture totale. Alors, en ce qui concerne les recruteurs, là, la question, elle est assez compliquée. Alors, c'est quelque chose qui émerge. Je suis beaucoup les procès, hein, actuels. C'est quelque chose qui émerge beaucoup des procès en cours. C'est-à-dire qu'on a une première difficulté, c'est qu'on a les recruteurs qu'on identifie. Mais souvent, ceux qu'on identifie, et là, je pense, par exemple, aux frères Klein. Les frères Klein étaient des recruteurs. ceux qui font la vidéo de revendication. Ils ont d'abord organisé les passages, avant de passer eux-mêmes d'ailleurs, puisqu'ils partent relativement tard en Syrie. Ce sont d'abord des recruteurs. On va avoir ce type de personnage qui finit par passer à l'acte aussi. Et donc, on peut voir une certaine, finalement, une, je ne sais pas si on peut utiliser le mot sincérité, mais en tout cas, ils finissent par faire la même chose. Et puis, on a les recruteurs qu'on n'identifie pas. Et là, ceux-là, c'est là que sont les vrais manipulateurs. Mais on a quand même beaucoup de... Enfin, c'est pas toujours très clair. Je pense qu'on manque de recul sur ces questions-là. Il y a quelques procès qui sont en cours ou qui ont eu lieu et qui ont montré, je pense, à celui qu'on appelle l'émir blanc, qui a été à plusieurs reprises, qui a bénéficié de non-lieu, hein, parce que son rôle n'a jamais été pleinement prouvé. Parce qu'on est finalement là dans les difficultés de qualification juridique. Alors, je ne suis pas juriste, mais à quel moment est le passage à l'acte? Qu'est-ce qui est condamnable? Et effectivement, il y a un certain nombre d'individus qui arrivent à passer à travers les mailles de ce type de filet. Et on a du mal, du coup, eux, à bien cerner à la fois leur motivation, leurs objectifs et leur rôle à proprement parler.
Merci. Jean Béchler.
Merci, Monsieur le Président. Votre exposé était parfait. À mes yeux, exhaustif, il n'y a rien à reprendre, du moins de ma part, d'autant moins que j'y connais rien. Mais vous écoutant, je me suis amusé, si vous voulez, à hisser vos propos à un niveau d'abstraction permettant d'en extraire ce que j'appellerais la structure logique. Alors j'aimerais, vous l'exposer, mais vous en faire part, si vous voulez, pour que vous me disiez si vous êtes d'accord ou non. Il faut partir de l'attentat suicide. C'est une technique. Oui. Une technique a pour critère l'efficacité. Ça marche ou ça ne marche pas. Pour définir l'efficacité, il faut définir un objectif. Donc, c'est un rapport moyen-fin. Cela ouvre sur trois possibilités. Première possibilité, l'attentat suicide est réaliste. L'objectif visé pourrait être atteint. Par exemple, les kamikazes, c'était parfaitement rationnel de la part de ceux qui les ont organisés. L'objectif était de renverser le rapport des forces dans le Pacifique. C'était pas tout à fait impossible. Les Américains ont été très embêtés pendant un certain temps. Vous avez les Tamouls, pareil, enfin. Ça essaie d'imposer la solution, sinon de l'indépendance, du moins de l'autonomie au gouvernement du Sri Lanka. Bon, ce n'est pas absurde. Si vous voulez. Vous avez d'autres... Par contre, certains objectifs sont parfaitement irréalistes. C'est le cas en général des idéologies. Et en particulier... Alors, les noms propres m'échappent complètement, mais il y a deux fadas arabes. L'un, si vous voulez, c'est un pavé de 1600 pages dont le Pentagone a extrait un résumé, enfin, comment dire, lisible. Vous devez connaître ces deux textes où l'attentat suicide et d'une manière générale le terrorisme est mis au service d'un objectif planétaire qui est d'un irréalisme parfait. Autrement dit, on a affaire ici à ce que j'appellerais des brutes et des imbéciles, ce qui est le cas général des idéologues. Alors, il y a une troisième possibilité qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'irrationalité. Dans le premier cas, les attentats sont la technique principale et le suicide est une modalité d'attentat. L'irrationalité commence lorsque l'attentat est mis au service du suicide, ce qui ouvre sur plusieurs possibilités religieuses. Mourir dans un attentat en martyr pour gagner le paradis d'Allah. C'est irrationnel parce qu'aucune religion ne prône et même n'autorise le suicide. Je n'en connais aucune et qu'on ne vienne pas m'opposer l'Andoura Qatar ou le Samlekana Jaina qui sont des modalités de suicide extrêmement précises, réservées à une élite infime de saints parvenus en fin de parcours. et vous avez une forme irrationnelle de suicide à l'occasion d'un ascensat que j'appellerai le suicide apocalypse, c'est-à-dire une haine à ce point intense que l'on veut mourir en emportant le plus de morts, le plus de gens dans la mort avec soi. Et alors, il me semble qu'il y a un certain nombre d'ascensats de ce type, c'est-à-dire fondés sur le recensement, sur des humiliations qui peuvent être personnelles, mais également historiques. N'oublions pas que le monde arabe vit des humiliations successives depuis la prise de Bagdad par les Mongols en 1258, c'est bien ça. J'ai dit toujours 48 ou 58. Et que ça continue. Et alors voilà, je me suis amusé comme ça à transcrire vos propos. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors je répondrai juste sur une question, la question de la finalité. Alors, ça renvoie presque à une autre question, c'est-à-dire est-ce que ça marche, le terrorisme ? Est-ce que ça marche ou pas ? On a envie de répondre que non, ça ne marche pas, parce que ben, ça dépend, c'est le problème. Et là, je crois que, effectivement, alors, ce n'est pas que l'attentat suicide, c'est le terrorisme dans son ensemble. Il y a deux. Je serais tentée de dire qu'on a deux types de finalités. On a les finalités territoriales, les indépendances. C'est le cas des Tigres ottomans. Alors pour eux, ça n'a pas marché, pour le coup. Mais quelque chose qui est réalisable, une frontière. C'est le cas des Irlandais, c'est le cas des Corses. Voilà, une frontière qui peut d'ailleurs souvent évoluer vers une autonomie, pas forcément une indépendance. En tout cas, une négociation qui est possible. Et puis, il y a tout ce qui est idéologique. Alors, bien sûr, il y a vouloir convertir tout le monde, vouloir la victoire d'une classe sociale, etc. Et ça, c'est pas possible, ça, c'est pas réalisable. Et c'est là, je pense, qu'est la grande différence entre les revendications territoriales. Finalement, c'est presque des relations internationales assez classiques, hein, voilà, de revendications d'émancipation territoriale. Et c'est dans l'idéologie, et là, on a de grandes familles de terrorisme. Qui évidemment ne peuvent pas, il n'y a pas de négociation. Je veux dire, quand la revendication, c'est la conversion collective de l'humanité, il n'y a pas de négociation. C'est pas possible. Alors, pour ce qui est de l'irrationnel, ça renvoie aussi à des débats de société, des questions de point de vue. Alors là aussi, je ne suis pas psychologue ou psychanalyste, je ne vais pas rentrer dans des considérations de médecine, mais ça renvoie aussi à des regards sur des choses qui semblent irrationnelles. Et je crois que l'attentat suicide a été particulièrement efficace quand il a été mené contre des Occidentaux, parce que justement, ça frappait aussi la culture occidentale, et que c'était encore plus efficace, et que cette efficacité du mode opératoire venait du fait que ça nous semblait fou, que ça nous semblait irrationnel, mais ça n'était pas forcément pour celui qui le commettait. Et là, on rentre aussi dans des dialogues culturels qui sont importants. Et les attentats suicides commis par les femmes, en particulier, semblent encore plus irrationnels parce qu'ils brisent encore plus de tabous de nos cultures occidentales. Et c'est une autre forme d'efficacité, et là, que les recruteurs dont on parlait tout à l'heure maîtrisent parfaitement, effectivement. Il y a du coup un avantage militaire à utiliser ce genre de technique. Mais je pense que l'irrationnel, c'est aussi une question de point de vue et assez largement de culture à cet égard-là, et de regard culturel.
Oui, oui. Alors en abstrayant l'abstraction, il faut distinguer, me semble-t-il, entre l'attentat suicide relevant de la logique de l'usage de la violence, si vous voulez, donc militaire en particulier. Mmh. Et puis, le suicide, si vous voulez, par l'attentat, qui relève d'une logique totalement différente, enfin, qui n'est pas du tout militaire, enfin, et qui verse dans l'irrationalité, enfin, presque inévitablement. Alors, on peut toujours plaider que certains suicides sont rationnels, ce que je ferai très volontiers, puisque je l'ai plaidé dans une vie antérieure. Excusez-moi.
Souhaitez-vous répondre ?
Non, je ne suis pas sûre que ça appelle une réponse. Mais...
D'accord. Bien. Monsieur Cotte ?
Si Mon micro voulait marcher, voilà, oui. Bon, l'un des grands intérêts de notre compagnie, c'est de permettre des prises de parole extrêmement variées. Alors, en ce qui me concerne, madame, moi, je vais vous remercier à un double titre. Tout d'abord pour la richesse, l'incroyable richesse de votre communication, qui nous fournit des sujets de réflexion majeurs. Et puis, le deuxième titre, c'est que grâce à vous, je revis des fragments de ma vie professionnelle. Parce que le hasard a fait que j'étais directeur des affaires criminelles et des grâces entre 1984 et 1990, et procureur de la République de Paris entre 1990 et 1995. Et que là encore, le hasard m'a fait rédiger la loi de 1986 qui centralise à Paris toutes les affaires de terrorisme. Et ça m'autorise à faire un commentaire sur une partie seulement de votre très riche intervention, à vous poser une question, en espérant que vous n'avez pas traité ce point, mais je ne pense pas avoir été, disons, vous avoir mal écouté, et puis appeler l'attention de tout le monde sur un petit point d'actualité qui est peut-être accessoire, mais qui est en relation avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire le terrorisme, et pas uniquement les attentats suicides. Le commentaire, c'est que je vous félicite d'avoir été nuancé, et même si vous traitiez des attentats suicides, de bien avoir montré qu'il existait des zones intermédiaires. Vous avez notamment cité Mohamed Kelkal, je vais y revenir. Tous les terroristes ne sont pas courageux, loin de là. Et quand on les examinait comme magistrats, en tant qu'auteurs d'actes de terrorisme, lorsqu'ils n'avaient pas mis fin à leur jour, on voyait qu'ils tenaient bien à leur peau, généralement, même si la peau des autres les préoccupait assez peu. Alors il est certain que ceux qui étaient dans l'avion d'Alger-Paris en décembre 1994 ont pris tous les risques, parce qu'en étant dans une carlingue lorsqu'ils sont arrivés à Marignane et que le GIGN était sur place, vous avez raison, ils risquaient bien, à défaut d'avoir une bande d'engins explosifs autour du ventre, d'y rester. Voilà, bien. Je ne pense pas que c'était le cas pour Mohamed Kelkal, car il s'est trouvé par hasard devant les gendarmes dans les monts du Lyonnais, dans cette petite localité qui s'appelle Maison Blanche, en dessous du col de Malval, pour qui connaît cette région. Il se planquait depuis déjà plusieurs jours et il a été trouvé et abattu par les gendarmes, car à cette époque-là, certains se sont indignés des conditions dans lesquelles il avait été mis fin à ses jours. À l'heure actuelle, on apprend que dès qu'il se passe quelque chose avec un couteau qui est brandi, l'intéressé n'est pas neutralisé, il est tué immédiatement. Bien. Bon. Alors, tout le monde n'est pas courageux. Mohamed Kelkal était dans cette situation intermédiaire. Celui de Toulouse, Mera, lui, en se planquant dans son appartement, savait qu'il risquait vraisemblablement sa peau. Mais pour tous les membres du GIA de l'été 95, pour m'être rendu dans la station RER B Saint-Michel le 25 juillet 95, il n'y avait pas l'auteur du dépôt du sac qui a tué et qui a blessé. Pas plus avenue de Friedland, pas plus à Maison-Blanche, pas plus boulevard Richard Lenoir, pas plus que dans la ligne de métro Musée d'Orsay au mois de septembre 1995. Donc, il faut bien avoir en tête que cette notion d'attentat-suicide, à titre personnel, le juriste que je suis, la situe comme relativement récente. Hein, et jusque-là, Georges Ibrahim Abdallah et les fractions armées révolutionnaires libanaises, on tuait des diplomates américains, mais on se gardait bien de rester à côté du corps avec une ceinture pour se faire exploser au moment où arrivaient les policiers. Donc c'est ce commentaire que je tenais à faire, et je pense que c'est bien d'avoir montré qu'il y a une zone grise importante, et que le courage n'est pas équitablement réparti entre tous les auteurs d'actes terroristes. La question, et c'est là que j'espère que je n'ai pas mal suivi vos propos, dans le procès actuellement en cours, Salah Abdeslam, sait-on s'il avait signé le formulaire dont vous avez parlé tout à l'heure, car il est bien présent, avec vraisemblablement une peine perpétuelle à la clé, mais n'aurait-il pas dû, lui aussi, comme ses autres, j'allais dire, collègues, se supprimer en novembre 2015? Je ne sais pas si vous en avez parlé. En tout cas, il apparaît comme quelqu'un qui n'est pas allé jusqu'au bout. C'est la question. Et puis, pour ne pas encombrer le temps de parole des uns et des autres, sur le plan de l'actualité, je voudrais simplement appeler votre attention que le gouvernement, à tort ou à raison, a estimé devoir créer, après l'attentat du Bataclan, de Charlie Hebdo, etc., une médaille de la reconnaissance au profit des victimes d'actes de terrorisme. Le hasard, encore, d'une vie professionnelle qui se perpétue, fait qu'au sein du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, je suis, entre autres activités, chargé de rapporter ce type de dossier. Et le journal officiel du 12 mars dernier publiait un décret avec toute une liste de victimes, soit décédées, et ce sont leurs ayants droit qui ont fait la demande, soit blessées, soit encore vivantes, qui ont souhaité se voir attribuer cette victime de reconnaissance au profit, cette médaille, pardon, de reconnaissance au profit de victimes d'actes de terrorisme. Et si vous prenez le temps de regarder le JO d'il y a 48 heures, vous verrez qu'il y a encore un certain nombre de victimes du Drakkar, Beyrouth, 1983, de victimes du détournement du vol Alger-Paris, des membres du GIGN, quoique combattants et militaires, ont souhaité se voir attribuer cette médaille comme étant eux aussi victimes d'actes de terrorisme, quoique étant en mission. C'est intéressant. Vous avez également l'attribution de cette médaille au responsable du RAID qui était à Toulouse lors de la reddition, non, lors de, du départ éternel de Mohamed Merah. Voilà, simplement. Ça m'a passionné, ce que vous avez dit, et comme vous le voyez, ça me rend de la passion. Merci.
Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. La médaille peut être décernée pour toutes les victimes de terrorisme à partir de 1974, c'est-à-dire l'attentat du drugstore Publicis, voilà, qui est considéré comme le premier attentat à l'aveugle. Alors, on peut débattre longtemps de la notion d'attentat à l'aveugle, mais finalement de la période post-guerre d'Algérie commise sur le territoire français. Et c'est la rupture, effectivement, pour la remise de cette médaille. Et la notion même de victime, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a beaucoup évolué, hein, puisqu'aujourd'hui, on a aussi les blessures psychiques qui sont prises en compte. Enfin, la notion de victime s'est considérablement développée au fur et à mesure et finalement d'une meilleure connaissance aussi de ces processus de réparation judiciaire, mais aussi psychologique, physique, après les attentats. Alors, juste par rapport aussi à ce que vous avez dit, le premier attentat suicide, véritablement attentat suicide sur le sol européen, c'est l'attentat du métro de Londres. Donc, c'est effectivement extrêmement récent. C'est le tout premier attentat suicide sur le sol européen, au sens direct du terme, c'est-à-dire le corps utilisé comme une arme. Donc, c'est effectivement beaucoup plus récent. Quel cale sa logique, c'est quand il voit les gendarmes, c'est qu'il ne veut pas retourner en prison. Et il préfère, j'ai envie de dire qu'il fonce finalement quelque part vers la mort parce qu'il ne veut pas aller en prison et c'est plutôt mort qu'en prison. Voilà, c'est plutôt la logique. Ce n'est pas un suicide, ce n'est pas un attentat suicide. C'est évidemment très, très différent. Ce qui est intéressant, c'est que son geste a été ensuite un peu travaillé dans la communication par ses proches qui ont voulu en faire un acte de courage et le transformer en acte de revendication. Mais effectivement, s'il avait pu rester planqué et continuer à commettre des attentats, il l'aurait fait. C'est assez évident. Alors, pour ce qui est de Salah Abdeslam, Salah Abdeslam, comme Omar Khayyam, et dans le procès en cours, je pense que le personnage important, c'est Omar Khayyam. Je ne pense pas que ce soit Salah Abdeslam. Enfin, ça, c'est une... Voilà, des points de vue. On verra ensuite comment la justice se tranchera. En tout cas, les deux nient avoir rempli ce genre de formulaire, ce qui est très invraisemblable, puisque tous les autres, et puis on a vraiment de multiples témoignages, hein, ça semble être absolument systématique. Donc, ils ont très, très vraisemblablement rempli ce genre de questionnaire. Et puis dans les vidéos de revendication et dans les discours de revendication, on voit que le nombre de membres du commando évolue. Alors là, je renvoie vraiment à l'enquête, hein, du SDAT qui était très, très détaillée, très précise sur cette question. Il montre que dans les premières, notamment le premier Nachid, fait allusion au quartier, et le premier texte de revendication fait allusion au quartier où Salah Abdeslam a laissé sa ceinture explosive. Donc, il aurait dû se faire sauter dans ce quartier. C'est assez évident. Et puis, ça disparaît des revendications suivantes. Le chiffre du nombre de membres du commando évolue petit à petit. Et donc, entre-temps, finalement, il a été rayé quelque part de la mémoire de l'État islamique et des revendications de l'État islamique parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Et il a tenu des discours assez contradictoires. Le dernier en date, au procès, il a finalement dit qu'il avait renoncé volontairement à... Mais il a tenu des propos tellement contradictoires. Auparavant, il avait dit qu'il y avait eu un dysfonctionnement. Voilà. Il le changera peut-être encore d'avis avant la fin du procès. Mais ça, ce sont ses versions. Voilà. Et après, la justice tranchera sur ses actes.
Merci. Georges-Henri Soutou.
Chers collègues, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris, donc je vous interrogerai, si vous permettez, sur la partie que je maîtrise moins mal, à partir de la notion d'islamo-gauchisme, à laquelle vous avez consacré fort justement tout un développement. Et il me semble, je crois même que vous avez utilisé le mot, que ce groupe-là était peut-être plus sensible que les autres que vous avez pu étudier à des manipulations. Manipulation au sens presque des services secrets, je vais y venir. Alors, une remarque convergente, dans le monde, disons, occidental, qui s'occupait de questions stratégiques, géostratégiques, etc., il y avait tout un débat dans les années 60-70, on pourrait trouver de littérature, en particulier aux États-Unis, sur la question de savoir si l'islam était une possibilité de résistance face au communisme, non, en particulier au Moyen-Orient, ou au contraire, disaient certains, si l'islam finalement n'était pas une possible voie d'entrée des soviétiques, par manipulation, hein, certaines formes de proximité vers le Moyen-Orient. Alors ce débat, que l'on pourrait retracer avec plus de précision, il a évidemment pris une nouvelle tournure, et ce sera ma première question, avec la guerre d'Afghanistan. Alors évidemment, l'islam est apparu directement confronté au communisme soviétique. Et c'est la période antérieure à celle qu'a évoquée Thierry de Montbrial. Et je voulais savoir si cette guerre d'Afghanistan a joué dans le développement de l'attentat suicide, au sens que vous avez utilisé, un rôle ou pas. Il me semble que oui. Mais enfin, bon. Deuxième question. Au-delà de cette discussion théorique sur la perméabilité ou pas de l'islam au communisme, il y a eu dans les années 70-80 toute une littérature qui émanait en fait indirectement sans doute des réflexions des services secrets occidentaux via des journalistes bien placés autour de la question de savoir si certains services de l'Est, n'utilisaient pas le terrorisme islamique, comme on dira par la suite, à des fins politiques, ne récupérez pas, n'utilisez pas. Et troisième point, ça c'est plutôt une indication, une de nos collègues italiennes vient tout juste de publier, je viens de recevoir, je n'ai pas encore lu, un livre très intéressant, dont je vous donnerai la référence lors de la séance, si vous voulez, pour lequel elle utilise des sources policières et de services secrets sur l'attitude des pays européens face au terrorisme islamique dans les années 70 et 80, qui est, comme vous le savez, très ambigu, puisque pour résumer le questionnement du livre, il s'agit de savoir dans quelle mesure chaque pays européen n'accepte pas d'être un sanctuaire pour avoir chez lui la paix, quitte à ce que les terroristes aillent tuer ailleurs. Je résume très brutalement le thème du livre. C'est sérieux, je dis tout de suite que c'est sérieux. Bon, voilà, je m'en tiendrai là, parce que sans ça, je pourrais me laisser aller. Mais je vous remercie une fois de plus.
Alors oui, la guerre d'Afghanistan a des effets à plusieurs degrés. Le premier, c'est qu'elle va susciter les premiers départs pour le djihad. Et là, on retrouve finalement aussi les instrumentalisations par les services secrets, hein, et notamment des pays du monde arabe qui se débarrassent d'un certain nombre de leurs opposants, hein, les régimes bassistes se débarrassent d'un certain nombre d'opposants islamistes en les envoyant combattre en Afghanistan. Et c'est comme ça que Ben Laden aussi arrive en Afghanistan. Et puis finalement, que se regroupent tous ces volontaires étrangers autour d'Abdallah Azzam, voilà, et qui commencent à s'organiser. Et ce sont ceux qui finalement se retrouveront ensuite dans Al-Qaïda, précisément à ce moment-là. Et puis je crois que la guerre d'Afghanistan a aussi un rôle important, ou plutôt c'est une non-lecture, je le crains, des gouvernements occidentaux à l'époque, Alors pour deux raisons. La première, c'est que effectivement, la guerre d'Afghanistan, c'est d'abord les Soviétiques, et que finalement, l'ennemi de mon ennemi peut-il être mon ami ? En tout cas, si ça fait mal aux Soviétiques, si ça nourrit les combattants face aux troupes soviétiques, ça ne peut pas faire de mal à l'Occident. Hein. Il y a quand même cette grille de lecture. Et puis, il y a aussi une lecture assez religieuse, utiliser l'islam pour contrer l'athéisme, voilà, pour ça se développe. Et puis surtout, en 1979, il n'y a pas que la guerre d'Afghanistan, il y a aussi la révolution iranienne. Et évidemment, c'est la conjonction entre les deux, finalement, qui va rendre... et on a une grille de lecture qui est très compliquée, puisque finalement, très vite, l'Iran, sous l'effet de la révolution islamique, bascule dans le camp anti-américain. Mais en même temps, on continue à encourager les islamistes en Afghanistan, aux frontières, parce qu'eux, ils sont en train de combattre les soviétiques. Et finalement, tout ça, je le crains, une absence de lecture des services occidentaux à ce moment-là sur ce qui est en train de se jouer, une méconnaissance ou mauvaise compréhension de ce qui se joue à ce moment-là. Je pense qu'en fait, en Occident, on a une lecture guerre froide assez classique. Et qu'en 79, on bascule déjà dans un autre rapport de force, dans un autre rapport et dans un autre contexte géopolitique, mais que nous, on est resté dans une lecture guerre froide totalement classique, qui ne prend pas en compte du tout ce nouveau facteur. Et c'est là que se greffe... Alors, directement, hein, pour la question française, c'est en 79 que se joue la fameuse question de Rodif, notamment, qui va ensuite expliquer les attentats des années 80 sur le territoire français. Finalement, presque tout prend ses racines à ce moment-là. Et c'est là que se joue l'essentiel de cette histoire, à mon sens. Et d'ailleurs, Gilles Kepel date de cette période, la rupture vraiment vers le terrorisme islamiste. Et je le suivrai assez dans cette direction. Ça me semble effectivement le moment de basculement, en tout cas.
Merci. Daniel Andler.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour ce magnifique exposé. Et j'ai hâte de lire le texte entier, puisque il y avait une qualité véritablement littéraire dans votre travail et les citations étaient extraordinairement éloquentes et vous m'avez fait beaucoup réfléchir comme mes confrères. Alors ma question, en fait, je ne suis pas du tout un spécialiste, s'inscrit un peu dans la continuité de la deuxième question de Thierry de Montbrial. Il vous avait interrogé sur les recruteurs parce que vous avez parlé des gens qui se sacrifient. Ensuite, il y a les recruteurs, mais est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup plus profond, beaucoup plus haut selon la direction, tout un appareil en quelque sorte, dont l'extrême pointe, ce sont les gens qui se sacrifient. En avant-dernier, on a donc les recruteurs, mais il doit y avoir les recruteurs des recruteurs, ou les idéologues des recruteurs, les organisateurs des recruteurs. Donc, est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut étudier et dont on peut comprendre la logique ou la rationalité particulière ? Et vous avez mentionné dans votre deuxième point de conclusion le fait que la question se pose encore dans les milieux islamistes, de savoir s'il faut, s'il ne faut pas, où est-ce qu'en est la discussion au sein même des milieux islamiques concernés ?
Alors, pour la dernière question, je mettrai un peu en touche, je ne suis pas du tout islamologue, hein. Mais précisément, je pense que les recruteurs des recruteurs se trouvent un peu là. Finalement, au niveau de cette discussion générale des théologiens et notamment des guides spirituels, je pense aux guides spirituels du Hezbollah, voilà, on a un certain nombre de discours... y compris sur des médias totalement légaux et diffusés en Occident, hein, qui réfléchissent à ce cadre, qui rediffusent ces questions de l'humiliation. On parlait tout à l'heure de l'humiliation. Voilà, tout ça est aussi nourri. Et finalement, tout ça participe d'un système. J'aurais presque tendance à comparer ça justement à un autre type de terrorisme, mais tout ce qui a été terrorisme des années 70-80, terrorisme, je pense au terrorisme d'extrême gauche comme au terrorisme d'extrême droite, où finalement le contexte politique dans son ensemble participe à nourrir la logique terroriste. Et celui qui passe à l'acte n'est que la face émergée d'un, toute petite face émergée d'un, d'un immense iceberg, finalement, qui nourrit l'ensemble de la société. Et là, mettre des noms devient très compliqué et définir le cercle exact qui participe à ce système devient très compliqué, voire dangereux.
Merci. Marianne Bastide-Bruguière.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux vous dire aussi combien j'ai été sensible à la qualité de votre analyse, de votre information, la précision de, la, de votre critique et sa finesse. Ma question porte sur la mythologie et le discours autour de, des attentats suicides. J'ai été frappée en début de, d'exposé. Vous avez montré, au fond, le brassage mondial des références, comprenant aussi bien les tigres tamouls que l'armée rouge japonaise. Et je voulais vous demander si les suicides par le feu des moines vietnamiens, qui sont du début des années 70, sont évoqués dans les documents que vous avez vus ou d'une manière quelconque dans la mythologie qui est autour de tout cela, puisqu'il y a aussi bien les anarchistes, toutes sortes de références, et aussi les suicides des moines tibétains, des nonnes tibétaines, et également, semble-t-il, au Turkestan chinois, au Xinjiang, il y a eu des suicides par le feu d'imam. Est-ce que vous avez vu quelque chose? C'est par curiosité.
Alors, absolument pas. J'aurais même tendance à dire que, bien qu'il y ait des Japonais et des Tamouls, mais alors on peut beaucoup débattre sur la culture tamoule qui est extrêmement intéressante, les références à la culture asiatique sont quasiment absentes. Parce qu'en l'occurrence, quand des Asiatiques rentrent dans cette histoire, c'est par le biais du marxisme. Et ce n'est pas par le biais, finalement, des cultures traditionnelles asiatiques. Je ne sais pas si c'est clair, mais je n'ai jamais vu, par exemple, de lien, alors, y compris pour le Sri Lanka, et pourtant j'ai beaucoup lu sur les Tamouls, parce que je me suis rendue sur place et que ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup... beaucoup interrogé, je n'ai jamais vu la moindre référence aux religions locales, uniquement un discours marxiste, assez classique d'ailleurs, Franz Fanon étant la Bible finalement assez de base et puis citée par tout le monde, voilà, mais pas de référence locale et culturelle locale.
Et si vous voulez, les suicides des bonzes au Vietnam, c'était contre l'impérialisme américain. C'est une expression religieuse.
Oui, oui. Mais...
Et le but fondamental, c'est un peu comme les... C'est de faire peur à l'ennemi et de le faire reculer. C'est très possible que vous n'ayez rien du tout là-dessus.
Comme il ne tue que...
C'est intéressant de le savoir.
Et que finalement, il ne cherche pas à tuer les autres, ce serait même peut-être contre-productif dans les discours terroristes d'utiliser ce genre d'exemple, parce que ça montrerait qu'il y a d'autres moyens de montrer sa révolte par la violence uniquement contre soi-même. Donc je pense que ce serait pour ces groupes contre-productif, justement, ça délégitimerait leur propre violence contre les autres. Mais voilà. C'est...
Merci. Michel Deuilleur.
Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour cet exposé si original. Il me semble qu'on a l'habitude d'insister dans l'analyse du phénomène djihadiste sur la radicalisation religieuse. Or, vous nous avez montré que c'était plus compliqué que cela et que, notamment, les plus récents avatars du terrorisme islamiste, associer le pire de l'islamisme au pire de l'individualisme contemporain. Je pense à cette espèce de démarche narcissique, finalement très moderne, qui permettait au candidat à l'attentat suicide de s'assimiler au super-héros de la sous-culture occidentale, finalement. Et il se trouve que depuis 30 ans, notre pays lutte ou croit lutter contre le communautarisme identifié comme le terreau de l'islamisme par une stigmatisation du fait religieux en général, en tout cas quand il sort strictement de la sphère privée, par une exaltation un peu tous azimuts de la laïcité, fût-ce au prix du déracinement de la négation finalement de notre identité, de l'identité religieuse de nos sociétés, et finalement la promotion de cette identité comme s'identifiant à la société consumériste dont vous nous montrez qu'elle fait partie elle aussi du terreau de ce type de phénomène. J'ai le souvenir il y a 30 ans d'avoir interviewé le président de l'INED, Pierre-Patrick Kaltenbach, qui, parlant de la jeunesse dangereuse qu'il pouvait y avoir en France, m'avait dit « ce n'est pas un problème parce qu'avec la société de consommation, nous allons les corrompre et que cela les détournera de tout idéal religieux et ça fera d'eux des gens inoffensifs. Est-ce que vous ne pensez pas, et moi j'ai le sentiment en vous écoutant, qu'à cet égard, nous avons fait fausse route ?»
Oui, alors c'est sûr que la société de consommation n'a pas vraiment modifié les choses, puisqu'au contraire, elle est très utilisée. Alors, on a quand même beaucoup et de plus en plus d'études hein, sur les profils des djihadistes menés. Alors là, je ne peux même pas les citer, il y a des dizaines et des dizaines hein, d'études qui ont été menées, où ce sont finalement vraiment des jeunes de leur temps, hein, c'est assez net. Ils utilisent très fortement d'ailleurs tout ce qui est à la fois société de consommation, mais aussi moyens de communication. Et puis d'ailleurs, là où on ne les attend pas, je pense à l'attaque contre le centre commercial de Nairobi menée par les milices Shebab. Les Shebab à Nairobi tweetaient au fur et à mesure le décompte de leur mort. Donc ils étaient sur Twitter. Voilà, on est en plein dans cette société mondialisée sur les réseaux sociaux. Abdali Laras, je m'embrouille dans les mots. L'attentat de Magnanville, voilà, il est sur Facebook et sur Instagram en direct. On voit à quel point c'est des jeunes de leur époque. Alors, j'ai pas voulu vous passer, hein, c'est un peu par principe, ni de vidéo, ni les chants, mais je me souviens. Que quand les chants de revendication des attentats du 13 novembre sont passés lors du procès là en cours, c'est un élément qui a beaucoup traumatisé les victimes qui étaient présentes et que ces chants sont des chants entraînants, des chants modernes, des chants très contemporains, alors en plus dans un français parfait, plutôt dans une belle langue, et qu'en fait, bien malgré nous, tous ceux qui venaient d'entendre ces chants les avaient en tête comme des refrains qui revenaient. Et des victimes se surprenaient à les chantonner, ce qui est évidemment le traumatisme absolu, parce que c'est une culture jeune, une culture pop vraiment qui est derrière. Ils utilisent tous les moyens que la société de consommation va donner à cet égard, et ce sont vraiment des jeunes qui appartiennent à cette société. Et il n'y a pas de rupture véritablement à cet égard-là. Et les vidéos de revendication, hein, vraiment, sont très... Le rythme, les scénarios, c'est très jeune. C'est très, très jeune. À tel point que l'enquêteur du SDAT, quand il a présenté la vidéo, a dû préciser à un public qui n'était pas... Alors, peut-être que le public jeune ici voit immédiatement de quoi je parle, mais les petits points qui étaient sur les images, il a dû expliquer que ça venait de jeux vidéo, parce qu'en gros, il y a un âge où on ne comprend pas ces références-là. Voilà, moi, je n'avais pas identifié ces références, mais ça appartient à une culture générationnelle.
Merci. Alors, il nous reste deux questions. D'abord, celle de Rahim Corsia, puis celle de Michel Pébreau. Je vous demanderai d'être bref.
Bien entendu, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Merci pour ce commentaire. Je comptais poser une question, mais si vous me permettez de réagir à cet échange qu'il y a eu là, qui me paraît important. Dans la Bible, à la fin du Deutéronome, il est écrit « Voici, je place devant vous la vie et la mort, vous choisirez la vie. » S'il y a un impératif biblique, c'est que ce n'est pas simple et que ce n'est pas évident. C'est-à-dire que oui, il y a une forme d'entraînement, il y a une forme d'abandon dans un projet, y compris le nihilisme dans la société. Il peut être fun à un moment, les vidéos sont fun, le groupe humain peut être fun, mais il y a un effort à faire justement pour chasser, pour combattre cette pulsion mortifère qui en fait instille quelque chose d'assez terrible dans la société. Et c'est là que je reviens à ce que vous avez dit de manière tellement juste, auquel j'aurais voulu vous demander si vous acceptiez de rajouter une petite chose. Quand vous avez parlé d'islamo-gauchisme, l'un des attentats les plus connus au tout début de cette ère des attentats démarrant en 1974, c'est celui d'Entebbe. On est en juillet 1976, et donc il y a 4 terroristes qui montent à Athènes dans un avion d'Air France et détournent l'avion à Entebbe, en Centrafrique. Il y a sur les 4, 2 du FPLP et 2 de la fraction armée rouge. 2 Allemands, un homme et une femme. Il se trouve donc que la première chose qu'ils font, la première, c'est reprendre le geste de la rampe d'Auschwitz pour sélectionner les passagers. Comme si la rencontre entre cet islamisme dur et ce gauchisme ne pouvait amener qu'une forme de fascisme qui fait qu'on trie les passagers en fonction de Israéliens, pas Israéliens, avec le geste incroyable de courage et de force de l'équipage, avec son commandant qui s'appelait Besco, si j'ai bonne mémoire, qui dit « moi, je reste avec tous mes passagers ». Donc, il y a quelque chose là qui éclaire aussi une façon de nier le monde par la négation de la diversité de notre façon de faire. Donc, oui, islamo-gauchisme, mais avec ce fascisme qui est en fait la résultante des deux. Et puis, enfin, vraiment une micro-question que le président me pardonnera. Madame, vous n'avez pas dit un mot sur le sujet qui nous passionne tous, les 70 vierges au paradis.
Alors, je rebondirai juste sur la rampe d'Entebbe. Alors, pour le coup, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'islamo-gauchisme pour Entebbe, parce que parmi le Front populaire de libération de la Palestine, on a quand même une obédience marxiste. Et donc, finalement, je pense que c'est l'antisémitisme, et que là, il faut mettre ce mot-là plutôt, parce qu'on n'est pas encore dans le terrorisme palestinien islamiste à proprement parler. On est un peu avant, et on est plutôt dans un terrorisme palestinien marxisant, avec d'ailleurs à l'époque, c'est la grande rupture, beaucoup de Palestiniens d'origine chrétienne. Et aujourd'hui, on a complètement oublié qu'il existait des Palestiniens chrétiens. Voilà, et dans le discours jeune particulièrement qui alimente le recrutement aujourd'hui des djihadistes quand on parle des Palestiniens, je pense que les trois quarts seraient très étonnés d'apprendre que tous les Palestiniens ne sont pas musulmans, parce que c'est quelque chose qui a été, c'est une histoire qui a été réécrite concrètement par les recruteurs à cet égard-là. Et donc pour la rampe d'Entebbe, c'est de l'antisémitisme pur. Et ça produit d'ailleurs une division au sein des groupes, et notamment des Allemands de la fraction armée rouge, la bande Abadermeinhof, puisque certains qui justement reprochaient, étaient en rupture avec leurs parents et reprochaient avec leurs parents l'histoire du nazisme, quittent la violence armée à ce moment-là. Parce que ce sont des assassins, mais qui ne se retrouvent plus dans cette violence dès lors qu'elle devient antisémite. Et là, on a un point de rupture qui est vraiment très, très important. Entebbe, c'est vraiment, je pense, une étape extrêmement importante. Alors, sur la dernière remarque, je dirais juste, parce que c'est quelque chose qui m'avait fait sourire, que pour justifier que des femmes aillent commettre des attentats suicides, comme on ne peut pas leur promettre 70 vierges, on leur promet que dans l'au-delà, elles seront plus belles que les 70 vierges. Voilà, et donc ça c'est la promesse pour les femmes, et donc il y a une fatwa qui promet aux femmes qui vont commettre des attentats suicides que dans l'au-delà elles seront plus belles que les 70 vierges. Voilà, donc il y a une récompense aussi pour les femmes à cet égard-là. Un peu superficielle la récompense, mais...
Bien, Michel Pébrou.
Merci Président, pardon d'avoir posé cette question si tard. J'ai été passionné par votre exposé, Madame, et merci infiniment de tout ce que vous nous avez appris. Mais à la fin de votre exposé, j'ai commencé à devenir vraiment très inquiet Ce sont des jeunes de notre temps. Les jeunes femmes font comme les jeunes hommes. Qu'est-ce qui évite que cela prenne une dimension telle que ce soit totalement immaîtrisable? Ça devrait passionner, en effet, ces jeunes. Parmi ces jeunes, il y a des jeunes qui ont reçu une éducation française avec toutes ses caractéristiques. Donc, les éléments de blocage qui peuvent venir de l'éducation paraissent extrêmement limités. Pourquoi il n'y en a pas davantage?
Alors là, la question est compliquée. À la fois, comment les arrêter et pourquoi il n'y en a pas davantage? On va se réjouir qu'il n'y en ait pas davantage. Et puis pour ce qui est de savoir comment endiguer le mouvement, ben malheureusement, si on le savait, il n'y aurait plus de terrorisme depuis plusieurs décennies. Donc on tourne sur des vraies questions. Je dirais, alors c'était mon approche initiale, c'était vraiment d'aborder le terrorisme dans son ensemble, tous les types de terrorisme. Une des choses qui m'a frappée sur la longue durée, c'est qu'un type de terrorisme vient toujours en chasser un autre. Et que finalement, l'échec ou la disparition d'un type de terrorisme vient très souvent d'une absence de visibilité quand autre chose le remplace. Et que même commettre un attentat n'est plus porteur, n'est plus efficace, n'est plus médiatisé. Ça, c'était un critère important. Et le deuxième critère, c'est quand la population au nom desquelles prétendent agir, les terroristes se retournent contre ces mouvements. Alors ça, c'est très net pour le terrorisme d'extrême gauche des années 70-80. C'est très net déjà pour le terrorisme anarchiste. C'est au moment où vraiment la classe ouvrière va s'organiser politiquement, en syndicat, en parti politique, que le terrorisme anarchiste décline. Pour le terrorisme d'extrême gauche des années 70-80, on a un peu le même système, c'est-à-dire au moment finalement où ces terroristes sont taxés de bourgeois, de par leurs origines sociales, d'ailleurs, qui sont de fait assez souvent bourgeoises, par les classes ouvrières, et donc où il y a rupture à ce moment-là, c'est souvent là qu'est le facteur d'échec. Donc je vous laisse tirer pour la suite de l'histoire, mais en tout cas, je pense que c'est la piste la plus intéressante à suivre pour... Alors on le voit aussi d'ailleurs pour les terrorismes nationalistes, c'est-à-dire quand les populations ne soutiennent plus les organisations qui mènent la lutte armée. C'est là aussi que ces terrorismes nationalistes commencent à négocier.
Merci. Bon, en ce qui me concerne, j'avais 11 observations et questions à poser. Et vu l'heure, je vais les remplacer par un coup de sifflet bref. Et par des remerciements tout à fait sincères. Ça, vraiment, bon, vous avez fait ce que je souhaitais. Merci.
Merci à vous.